Chers amis, bonjour, bonsoir. Nous sommes ravis que vous soyez avec nous aujourd'hui. Nous allons commencer notre conférence qui a pour thème les stades basses et les éléments de la nature. Nous allons entrer dans les scènes de la grande mer cosmique, dans les grandes mers nature qui n'est pas quelque chose d'inerte. Elle est en effet bien vivante. Elle possède une âme. Et nous nous sommes tellement éloignés de ces mystères que nous avons comme conséquence beaucoup de maladies, beaucoup de souffrances, beaucoup de problèmes. Lorsque l'être humain aura décidé de réintégrer sa mère nature, tout sera alors résolu. Les partis politiques ne vont jamais résoudre les problèmes qu'il y a dans notre vie, tandis que notre mère nature, elle, pourra les faire. Anéantir nos maladies, nous donner des nutriments, toutes. Oui, parce que notre mère nature est intelligente. C'est notre mère, la mère de toute l'humanité. Nous sommes tous ces filles ingrates, vous savez. Mais si nous retournons vers celle, alors tout sera résolu. C'est bien de cela dont il est question. Réintégrer tous ces mystères de notre mère divine, de notre mère nature, c'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Étudions alors l'état de base et les éléments de la nature. Tout d'abord, nous devons savoir quels sont les éléments. Comme nous l'avons toujours dit, et cela est aussi valable, bien sûr, pour les éléments, il existe une loi qui organise cette perfection tout. C'est la loi de l'état paraparchinok, la loi du sept. Cette loi se trouve partout dans l'univers. Elle organise cette perfection tout, et les éléments de la nature ne pouvant pas en être l'exception. Il y a sept éléments de la nature. La terre, l'eau, l'air et le feu. Ces quatre éléments fondamentaux, basiques, et nous les connaissons parfaitement. Pardon. Mais il en existe un cinquième élément, que l'on appelait au Moyen-Âge l'éther. Au fur et à mesure que nous avons avancé dans la technologie et dans les manques de valeurs morales et éthiques, nous avons perdu la connaissance de ces cinquièmes éléments de la nature puisque nous ne l'acceptons pas scientifiquement. Nous parlons plutôt du champ magnétique, des forces de la nature. Nous lui avons donné à notre nom, mais ces cinquièmes éléments continuent d'exister et ils se nomment l'éther. Le sixième élément est la lumière astrale. Et le septième élément, c'est le mental cosmique. Il existe donc sept éléments dans la nature. Sept éléments en accord avec la loi du sept, la loi de l'état paraparchinok, je le répète. La loi du sept. Nous allons tout d'abord parler des cinq premiers éléments, et un peu plus tard, nous verrons les deux autres éléments supérieurs. Les cinq premiers éléments possèdent ce qu'on appelle les tattvas. Le mot tattva est un mot sanskrit, et il fait référence à l'âme, à l'essence, au principe éthérique des éléments. Le tattva, l'âme, ou l'essence, mais nous pouvons aussi dire la vibration de la terre, se nomme prithvi. Ces mots hindous peuvent nous paraître assez bizarres au début, parce que nous ne les avons jamais entendus, mais nous nous y habituerons peu à peu, et ils sont faciles à comprendre. Pour l'instant, il suffit simplement de comprendre que chaque élément possède son principe, sa vibration, son essence ou son âme, que l'on appelle tattva ou vibration. Donc, la vibration, le tattva, l'âme ou l'essence de l'élément terre se nomme prithvi. Le tattva de l'eau se nomme apas. Celui de l'air, Vayu. Celui du feu, Tejas. Et celui de l'éther, Akash. Ce sont les noms des tattvas des cinq premiers éléments de la nature. Ces tattvas se trouvent aussi dans les aliments. Nous en avons un peu parlé dans les conférences sur l'alimentation. Nous trouvons les tattvas prithvi, l'essence de la terre, qui se trouve aussi dans les céréales. Le tattva apas, l'essence de l'eau, nous le trouvons aussi dans les poissons. les crustacés. Le tel babadieu, nous le trouvons dans les aliments qui possèdent de l'alcool, de manière naturelle, c'est-à-dire les fruits. Le tadbateras, qui est l'essence du feu, nous le trouvons dans la viande et le tadba de l'éther akash, nous le trouvons quand nous transformons ou transmutons nos énergies créatrices. Voilà donc les tadbas qui sont l'âme de chaque élément de la nature. Chaque tadba a ses properties, ses caractéristiques. Lorsque le tadba akash, la vibration de l'éther, vibre dans la nature, il est très propice à la méditation et à la prière. Il faut donc bien méditer et beaucoup prier lorsque vibre cet tadbas. Lorsque le tadba badiou, qui est le tadba de l'air, est en train de vibrer, il est bon de faire des activités qui ont une relation avec la vitesse, le mouvement, la rapidité. La navigation aérienne est très dépendante du tadba badiou. Par contre, lorsque cet tadba vibre, nous avons tendance à dire du mal de notre prochain, à voler, à tromper. Et lorsqu'il vibre très intensément, il peut produire des accidents d'avion. Ou bien les personnes qui veulent se suicider appliquent le rides foyes. Pendant la vibration de cet tadba badiou, les affaires et les arrangements rapides, ne demandant pas une longue durée, sont très bons à réaliser, parce que ces badiou tadva représentent le mouvement, la rapidité, bien sûr. On peut donc très bien réaliser des affaires rapides à ce moment, à ce moment-là, lorsque c'est la vibration de cet tadba de l'air. Lorsque le tadba tejas, qui est celui de feu vibré, il veut dire donc chaleur. On a tendance à discuter, à se disputer. Mais ce tejas tadba est aussi propice au travail intense, il nous aide beaucoup. Les mariages qui se font durant la vibration de Texas ont tendance à avoir de nombreuses disputes. Et les explosions et les accidents en général ont tendance à se produire pendant la vibration de Texas parce qu'il y a beaucoup de chaleur. Le tadba de la terre, Prithvi, est le tadba de succès. Toute affaire qui se fait durant sa vibration a plus de probabilité de triompher. Et tout aliment que nous consommons durant ce Prithvi tadba améliore notre santé. Il est bon. Les mariages qui se font durant sa vibration sont en général très heureux. N'importe quelle fête, conférence, affaire, rendez-vous qui se réalise dans sa vibration de Prithvi Tadba, a plus de probabilité d'avoir du succès. Alors, Prithvi représente l'amour, la charité, les bénévolentes. Et le Tadba de l'eau, Apas, est par définition contraire au Tadba Tejas. Donc, tout ce qui sera Apas, sera le contraire de Texas. Cet tadba apas a aussi un rapport avec les affaires, mais il est en relation surtout avec les liquides. Aussi, l'achat des marchandises sera favorisé dans la vibration du tadba apas. Voilà donc quelles sont les vibrations des tadbas et les caractéristiques dans la nature. Nous pouvons parler de la mesure des tadbas que nous donne la nature. Nous devons donc bien observer la nature tout autour de nous. Lorsque l'air ambiant est humide, lorsqu'il pleut et qu'il fait un peu froid, quand ces nuages denses et sombres encombrent le ciel, tout ceci doit nous faire penser à quoi? Que veut dire cette ambiance? Eh bien que les vibrations présentes de celles de Tadva Apas, n'est-ce pas? C'est indiscutable. La nature, à ce moment, l'a vivrée avec Apas. Le tadba de l'eau. Tout ce qui a un rapport avec cet tadba vivre dans cet instant merveilleux où il fait humide, pluvieux, avec les nuages denses dans le ciel. C'est la vibration du tadba apas. C'est très simple et facile à comprendre. Quand il y a des ouragans et beaucoup de vent, c'est alors Vayu tadba qui vivre intensément dans la nature. Quelquefois, il y a du vent et de la pluie, alors ce sont les deux tadvas qui vibrent en même temps dans la nature, apas et vayu. Si dans certaines régions il pleut beaucoup, alors c'est le tadva apas qui vibrait avec plus d'intensité. Ici, et si dans certaines régions il ne pleut pas, cela veut dire que le tadva apas ne vibrait pas souvent dans cette région. La nature est très sage et très intelligente. S'il fait humide, c'est apas. S'il y a du vent, c'est vayu. S'il y a beaucoup de soleil et qu'il fait très chaud, c'est tejas qui vivrait dans toute la nature. Et si l'ambiance est sèche et étouffante, c'est le talva de l'éther Akash, appelé Akash. Et s'il y a un air ambiant tempéré, rempli de lumière et de joie, ce sera la manifestation du talva de la terre, Prithvi, dans toute la création et la nature entière dans cette région. Il est très intéressant d'observer la nature car ses vibrations sont idéales pour certaines activités humaines comme nous venons de les voir. Si nous prenons l'habitude d'observer la nature, d'observer le ciel et les montagnes, d'observer les oiseaux et d'être plus en contact avec la nature, nous pourrons découvrir et connaître énormément de choses. Il faut un temps où il nous suffit d'observer les vols des oiseaux pour savoir s'il allait pleuvoir ou non, s'il allait faire beau. Il suffisait de regarder les nuages et on savait s'il allait faire froid ou après. La nature est très sage, elle a tout le nécessaire pour que nous puissions guérir de nos maladies. Hélas, nous nous sommes éloignés de notre mère. Et comme un enfant orgueilleux et râleur s'éloigne de sa mère, l'unique chose qu'il va récolter sera quoi? C'est de la souffrance. Lorsque nous sommes enfants, nous avons besoin de l'aide de notre mère. C'est la même chose pour nous tous. Nous avons besoin de l'aide de notre mère nature et nous pourrions nous aider avec l'état de base. Mais il y a encore quelque chose de très intéressant dans la nature, quelque chose de merveilleux, de beau et de sublime. Ce sont les éléments de la nature. Ils sont fantastiques, extraordinaires, merveilleux. Dans tous les pays du monde, dans toutes les cultures du monde, existent des enseignements à propos des éléments. Mais de nos jours, on les considère comme des contes fantastiques, n'est-ce pas? Et nous n'y faisons pas attention. Mais ce n'est pas ainsi. En réalité, les soucis de Saint-Germain, de Saint-Augustin, les animaux, des Indiens Arhuacos, de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, les sylvestres et les faunes durant sage Paracels, ou les mêmes Aluches de Maya, les Nahuales et les habitants de Oaxaca du Mexique, tout cela nous parle de ces créatures de la nature, de cette âme de la nature. Si l'on regarde les coutumes des habitants de Oaxaca, c'est une région du Mexique où il y a beaucoup de tremblements de terre. Ils ont des coutumes qu'ils ont conservées depuis de très nombreuses années, des centaines d'années, et qui sont en rapport avec les éléments précisément. Une de leurs coutumes qu'ils utilisent encore de nos jours dans les petits villages de Oaxaca est la suivante. Lorsque naît un enfant, ils plantent les petites buttes de nombril au pied de la pousse d'un arbre. Ils unissent donc cet enfant à un arbre, non pas dans sa partie physique, bien sûr, mais ils l'unissent avec l'âme de cet arbre. Et oui, chaque plante possède une âme. Et ce que nous appelons élémental dans l'arnos, parce que les éléments sont en étroite relation avec les éléments de la nature, avec le feu, l'air, avec l'eau, avec la terre et l'éther, bien sûr. Voilà pourquoi nous les appelons les éléments. Et leur corps physique, ici, sont les plantes, les minéraux et bien sûr les animaux de la nature. Le mot animal vient des anima. Et si nous enlevons la lettre L d'animal, nous obtenons le mot anima. Et anima signifie bien âme, bien sûr. Il est évident que l'animal a une âme, que les animaux ont une âme, et pas seulement eux, mais les plantes aussi ont une âme, ont leur élémental. Les lutins, les elfes, les gobelins, les sirènes, les fesses, les sylphides, ils ont des milliards d'autres noms. Ils sont l'âme des plantes et des animaux et des minéraux. Il y a donc des élémentaux de la nature qui font que vivent cette nature autour de nous. Que vivent les minéraux, les roches, les pierres, l'or, l'argent, les diamants, les cuivres, les émeraudes, les plombes, les thymes. Tout minéral qui existe sur la terre, chaque pierre, chaque roche, contient ses propres élémentaux. Tout possède un élémental, et il faut savoir que même notre corps physique est formé par des élémentaux que l'on appelle élémentaux atomiques. Tout cela est vraiment merveilleux et extraordinaire. Nous parlions des coutumes des habitants de Oaxaca et nous disions qu'ils avaient l'habitude de parler au pied de la pousse d'un arbre, les petites bouts de nombril de l'enfant nouveau-né. En fait, avant de le faire, ils avaient déjà cette pousse d'arbre quelque part dans leur jardin ou dans leur maison. Et du fur et à mesure que cet arbre grandit, l'élémental de l'arbre, l'âme de l'arbre, va prendre soin, protégera, aidera autant que possible l'enfant dans les différentes circonstances de la vie. L'élémental de cet arbre va l'aider durant toute sa vie parce qu'ils sont unis. Il y a des élémentaux extraordinaires comme l'élémental du pain, de l'arbre du pain, qui est un excellent gardien du foyer. Les élémentaux sont très nombreux et travaillent sur énormément de choses. Il y a très longtemps, nous en étions, nous humains, tous conscients, mais comme nous sommes devenus très modernes, très avancés, très sceptiques, nous n'éduquons plus nos enfants avec des contes de fées, de lutins. De nos jours, nous les éduquons avec des pistolets en plastique, des canons en plastique, avec des jeux comme des policiers, des voleurs, des jeux vidéo, avec les dispositifs électroniques, des téléphones portables. Voilà mon enfant. Ne me dérangez pas. Voilà, prendre les mobiles, prendre les téléphones portables. Il y a des jeux là-bas. Ne me dérangez pas. Voilà. Nous sommes très modernes, en effet, mais nous nous éloignons de la nature et cela, nous allons les parler très cher. Nous allons les payer très cher parce que nous récoltons toujours ce que nous aimons. Et celui qui s'éloigne de sa mère nature commet beaucoup d'erreurs. Nous avons besoin d'un guide dans la vie et il devrait être notre mère nature. Notre coutume des habitants de Oaxaca est que lorsqu'un enfant vient au monde, on met les cendres de la cheminée ou les cendres du fourneau de la cuisine tout autour de la maison. Nous parlons là des coutumes des gens de la campagne, de cette population qui est toujours en contact avec la nature et qui vivent avec beaucoup d'animaux, des lapins, des poules, des chiens, des chattes, etc. Alors ils répandent donc de la cendre tout autour de la maison où l'enfant est né. Juste avant la nuit, peu importe qu'il soit né le matin ou le soir, et le lendemain, ils observent les pas ou les empreintes des pas qu'il y a dans la cendre autour de la maison. S'il y a des empreintes d'un petit renard, les nahuals, ce mot nahual est un mot aztèque très ancien, qui signifie déguisement ésotérique. C'est ainsi qu'ils s'appellent les élémentaux. Bien. S'ils observent donc les empreintes d'un renard dans les cendres autour dans un espace autour de sa maison, ils savent que ce nahual du renard correspond à l'élémental qui sera associé à l'enfant durant toute sa vie. Ce sont les empreintes d'un ours, ce sera le nawal de ses enfants. Si c'est un tigre, il sera le nawal de l'enfant. De même, si c'est un lapin, ce sera le nawal ou l'élémental qui sera en relation avec l'enfant. Ce sont des coutumes merveilleuses qu'ont les personnes. Et ces coutumes étaient très nombreuses auparavant. Mais elles se sont peu à peu perdues. Et c'est bien dommage, car nous devrions les retrouver, les faire connaître à nouveau dans les familles. Tout du moins faire connaître cette coutume de petites buttes de nombril plantées au pied d'un jeune pousse d'arbre pour unir l'élémental de l'arbre avec l'enfant nouveau-né. Et même si l'arbre venait à sécher et à mûrir, il n'arrivera rien à l'enfant. Si l'arbre pousse et grandit bien, l'âme de cet arbre serait toujours en contact avec l'enfant en l'aidant tant que possible, et en prenant soin, et le protégeant, le secourant, et faisant tout ce qu'il faut pour l'aider. Les élémentaux sont des créatures innocentes qui ne font jamais de mal à personne. Ils ne sont pas pervers non plus comme nous le montrent certains films. Et tout ce qu'on a voulu nous faire croire sur des luttants négatifs. Toutes ces fausses idées sur les élémentaux détériorent notre mental, nous induisent en erreur. Nous ne devons pas y prêter attention. Ce ne sont que des mensonges, des pures fantaisies inventées par des mentales dégénérés. Il faut s'éloigner de toutes ces croyances négatives et de savoir que les élémentaux de la nature sont des créatures pures et innocentes. Ce sont des créatures très belles et elles peuvent nous aider dans de nombreux domaines. Parce que qui guérit, ce n'est pas le cadavre d'une plante. Quand nous préparons un thé, par exemple, et que nous prenons le corps physique d'une plante, ce qui nous fait du bien et nous guérit, c'est l'âme de la plante. Il faut donc nous habituer, comme nos petits renards les faisaient, à parler aux plantes. Savoir quelles ont de la vie en elles, savoir qu'elles sont une âme, et c'est exactement pareil avec les animaux et les minéraux. Ils ont tous une âme, et nous, quelquefois, parlons aux animaux, n'est-ce pas? Ils sont nos amis, ils sont nos mascottes. Bien, c'est le même pour les plantes. Les élémentaux des plantes peuvent devenir nos amis aussi, et ils seront héros d'avoir notre amour, notre amitié. Comment ils vont se manifester? Et peut-être ils seront en bonne santé, comme plantes, ils seront heureux, ils auront des fleurs plus belles. Et c'est sa manière de se manifester, de manifester son amitié pour nous. Les âmes des plantes, des minéraux et des animaux sont des élémentaux de la nature et on les appelle ainsi car ils sont en relation étroite avec les éléments. Depuis des temps immémoriaux, les éléments de la terre sont appelés les élémentaux de la terre, élémentales de la terre sont appelés leur nom et les pygmées. Et il en a de trois sortes, trois catégories. Il y a tout d'abord les catégories des noms et des pygmées qui se trouvent dans nos muscles et nos os. Ce sont des élémentaux de la terre atomiques. Si on ouvrait une pierre ou une roche en deux, et si nous avions le don de la clairvoyance, nous y verrions des centaines de gnomes et de pygmées atomiques travaillant sans relâche. Ceux qui ont plus de connaissances, qui sont dans un apprentissage un peu plus avancé parmi les gnomes et les pygmées, mesurent 10 à 15 centimètres d'altitude. Ils aiment à imiter les êtres humains parce qu'ils savent qu'ils entreront un jour, dans le futur, dans le règne humain. Parce que nous aussi, nous avons été des élémentaux, mais nous ne nous souvenons pas, bien sûr. Nous ne nous souvenons même pas de ce que nous avons mangé il y a quelques mois. Nous ne nous souvenons même pas de ce que nous avons fait lorsque nous avions 5 ans, 4, 3, 2, 1 an de vie, de cette vie. Nous ne nous souvenons pas de notre existence présente. Alors, nous ne pouvons pas nous souvenir de nos anciennes existences, et encore moins de notre existence en tant qu'élément de la nature. Il y a centaines d'années, ou peut-être milliards d'années. Ils savent donc qu'ils entreront dans leur alignement, dans son futur, et c'est ce qu'ils souhaitent vraiment. C'est pour cela qu'ils s'habillent comme nous, c'est tout. Normalement, ils ressemblent à des petits vieux avec une longue barbe blanche. Mais ils peuvent aussi prendre la forme d'un petit chien, d'un lapin, ou la forme de n'importe quel animal. Ils ont bien sûr cette faculté. Ils vivent dans la quatrième dimension, dans la quatrième verticale. Nous autres, nous vivons dans le monde tridimensionnel, mais auparavant, la quatrième dimension était bien plus proche de notre monde tridimensionnel, avec plus de contact avec notre monde. Les personnes étaient beaucoup plus en contact avec toute cette beauté de la nature, avec l'âme de la nature, avec cette quatrième dimension, directement. Malheureusement, nous nous sommes bien éloignés de la nature et nous avons perdu de cette fête tous ces contacts avec les élémentaux de la nature. C'est la colère qui nous empêche de voir cette clairvoyance positive développée en nous et qui nous a fait perdre la faculté de voir toute cette beauté de l'âme de la nature. Ces elfes, ces petits lutins, ces gnomes et ces pygmées du 12e groupe apparaissent des fois sur les routes. Bien sûr, ils ne nous apparaissent pas comme tels, car nous serions vraiment effrayés, mais il est possible qu'ils nous apparaissent comme des petits animaux pour nous avertir d'un danger imminent, pour que nous fassions attention, parce qu'un danger peut se trouver devant nous. Ce sont cette catégorie de noms et de pygmées qui sont chargés de faire ce genre de signalement. La troisième catégorie de noms et de pygmées sont encore plus avancées dans leur apprentissage, ce sont les gnomes et pygmées alchimistes déjà. Ce sont eux qui sont tenus de protéger les trésors de la nature. Ils les protègent tous. Et même si nous cherchions ces trésors avec des cartes et des appareils sophistiqués, si les élémentaux de la terre en accord avec la loi du karma ne nous l'autorisent pas, alors nous ne trouverions jamais rien. Rien de tout. Rien de tout. Ils les cachent. Il les change de place et jamais un trésor ne pourrait être découvert pour une personne si la loi du karma ne le permet pas. Jamais. Nous pourrons en vain chercher ce trésor, nous ne le trouverons pas. On raconte que si nous voyons une poule en or avec ses poissons s'enterrer dans la terre, c'est qu'à cet endroit se trouve un trésor. Les gnomes sont apparus de la sorte à certaines personnes parce que ces trésors leur correspondaient. Alors, les élémentaux se font visibles d'une façon ou d'une autre pour leur montrer, c'est tout. C'est possible. Très rare de nos jours, mais c'est possible. Nous ne devons pas devenir des chercheurs de trésors parce que notre trésor, à nous, le plus merveilleux, c'est notre esprit. La cupidité et l'ambition ont toujours mené à des désastres. Les guerres se font par ambition. Tous les conflits et les disputes dans la famille se font très souvent à cause de l'ambition. Voyez, l'os d'un héritage commence des frères qui s'animaient apparemment, qu'ils s'aimaient apparemment. Alors ils se battraient et même s'entretuent. Le travail des gnomes et des pygmées de la troisième catégorie est de chercher et de protéger les trésors. Cela fait partie de leur travail. Ils sont aussi chargés de produire les métaux de la terre. Les métaux que nous trouvons dans la terre n'est pas le fruit du hasard. Ils sont produits par les élémentaux de la terre grâce à leur savoir et leur intelligence. Si vous regardez dans un microscope la constitution d'un grain de sel, c'est extraordinaire d'observer comment est fait un seul grain de sel. Il y a vraiment d'intelligence dans la constitution de ces grains de sel. Ce n'est pas un hasard. Regardez un quartz. Un quartz. Il se cristallise de façon hexagonale, avec six côtés. Qui fait cela? Pensez-vous que cela soit du hasard? C'est du hasard? Bien sûr que non. Il y a de l'intelligence dans ce travail Il y a des gnomes et des pygmées alchimistes qui travaillent pour fabriquer ces métaux, ces minéraux. Continuons avec les élémentaux de l'eau. Ce sont des ondines et des néréides. Ondines et néréides. Elles vivent dans les océans, mais même dans les nuages, dans l'eau des nuages, dans les fleuves, dans les rivières. On les connaît populairement comme les fameuses sirènes. Oui, elles apparaissent de temps en temps avec les corps des poissons et des visages des femmes. Les sirènes sont effectivement des ondines et des néréides, les élémentaux de l'eau. Elles apparaissent aussi comme de très belles jeunes femmes dans les lacs. Chez les Aztèques, on les appelait les Tlaloc. C'était celles qui étaient chargées de mener l'eau dans tous les endroits du monde, munies de leurs jarres, comme le disent les traditions aztèques, et avec des bâtons pour casser les jarres remplies d'eau, et tout cela par ordre du dieu de la pluie, Tlaloc, le dieu de la pluie parmi les Aztèques. Nous avons d'ailleurs sur notre site le livret intitulé Tlaloc, le vent que boit la terre, dans lequel on parle justement de ces ondines, de ces néréides, appelées parmi les Aztèques comme les Tlaloc. Les Tlaloc sont les élémentaux des eaux chez les Aztèques. Les élémentaux de l'air sont les sylphes et les sylphides. Ils vivent dans l'air pour les convertir en vent. Ces sylphes et ces sylphides sont très turbulentes. Ces sylphes sont de nature masculine, les sylphes et les sylphides féminines. Ils animent les ventes. Et puis, nous avons les salamandres, qui sont les élémentaux du feu. Elles ressemblent plus ou moins à des petites sauterelles. Et dans l'élément éther, nous avons des élémentaux qu'on appelle les Punctas et Barbelos. Punctas et Barbelos. Ces élémentaux ressemblent à des demi-lunes. Ils sont de couleur dorée et vivent dans l'éther. Les élémentaux se trouvent donc dans toute la création. Mais chaque sorte d'élémentaux ont une orientation très singulière, très particulière. Où que nous soyons, dans n'importe quelle partie du monde, le temple de ces élémentaux se trouvera toujours dirigé vers un point cardinal, peu importe où nous nous trouvons dans la Terre. Que nous soyons en Argentine, au Canada, en Espagne, en Asie, le temple des gnomes et des pygmées sera toujours tourné vers le nord, toujours. Tous ces élémentaux se trouvent partout. Lorsque nous faisons la cuisine, par exemple, nous avons beaucoup d'élémentaux qui y travaillent. Dans l'eau que nous utilisons pour faire une soupe, nous avons des ondines et des néréides. Dans les feux que nous utilisons pour faire cuire les aliments, nous avons les salamandres du feu. On a toujours considéré celui qui cuisine comme un véritable mage. Et c'est évident qu'il est, parce qu'il travaille avec des forces de la nature. Il est dommage que l'on sous-estime la cuisine de nos jours et que l'on a donné beaucoup trop d'importance à l'intellect. Intellect que l'on a beaucoup développé, et à cause de cela, nous pensons que la cuisine est quelque chose d'inférieur, d'insignifiant. Mais non, les choses ne sont pas ainsi. Avec les aliments, nous donnons à nos enfants de la force, de la vitalité et de l'énergie, des nutriments et des minéraux, des protéines et de la vie. La cuisine n'est donc pas n'importe quoi. Nous nous sommes éloignés de la magie de la cuisine alors que dans la cuisine se trouvent des choses incroyables et insoupçonnées. Une pomme contient des élémentaux. Une carotte aussi a ses élémentaux. Un chou-fleur a ses élémentaux également. La vie est dans tout. La vie est partout. Tout possède une âme. Imaginez toutes ces forces présentes dans la cuisine. Lorsqu'une mère, un père, un frère ou une sœur fait de la cuisine avec tendresse et émotion. Quand on est malade et que l'on veut se soigner avec un thé, ou une tisane, la partie physique de la plante n'est pas celle qui soigne. Non, c'est l'âme de la plante qui s'en charge. On doit donc faire appel à l'élémental de la camomille camomille, pardon, camomille, de la cannelle, des herbes de cuisine pour qu'il nous aide, pour qu'il nous guérisse, pour qu'il nous soigne. Et si vous faites cela, vous vous rendrez compte que vous obtiendrez de très bons résultats. Il faut donc revenir dans les seins de la nature. Donc, le temple des gnomes et des pygmées se trouvera toujours dirigé vers le nord. Le temple des ondines et des Néréides, de l'eau, serait toujours dirigé vers l'occident, vers l'ouest. L'élémentaire de l'air, les sylphides, auront toujours leur temple dirigé vers l'orient, vers l'est. Et le temple des salamandres de feu, vers le sud. Par contre, le temple de l'élémentaire de l'éther, les pontes et les barbelos, seront toujours dirigés dans toutes les directions. C'est pour cette raison que si nous voulons travailler avec les gnomes et les pygmées, les élémentaires de la terre, nous devrons diriger nos prières pour faire nos demandes et nous plaçant vers le nord pour leur demander de réaliser le travail que nous souhaitons. En ce qui concerne les signes zodiacaux, les signes zodiacaux en astrologie, il faut connaître l'élément qui correspond à chaque signe. Cela nous en apprendra beaucoup sur la nature. À chaque signe zodiacaux correspond une partie du corps physique, du corps physique de l'être humain, et les plantes, les fruits et les légumes ont la forme de la partie du corps qu'ils renforcent. Les béliers, par exemple, régit la tête, le cerveau. Les taureaux régit la gorge. Les gémeaux régit les poumons et les bronches. Les signes du cancer, la glande thymus. Les signes du lion, règne le cœur. La balance, les reins. Les scorpions, les organes créateurs. Les sagittaires, les artères fémorales et les fesses. Les capricornes, les genoux. Les verseaux, les moggettes. Et les poissons, règne les pieds. Vous pouvez rendre compte combien la nature révèle. Elle nous donne ce dont nous avons besoin pour mieux nous soigner, pour nous guérir. Tout ce qui a la forme d'un cœur sert à soigner le cœur. Tout ce qui a la forme d'un rein, que ce soit des feuilles, des légumes, des fruits, des plantes, serviront à soigner les reins. C'est aussi simple que cela. Il y a bien sûr des plantes qui ne doivent pas être ingérées. L'élémento lui peut nous aider, peut nous guérir si nous savons lui demander de tout notre cœur et de toute notre âme. La nature nous répondra si nous sommes sincères, mais elle ne répondra pas aux caprices et ne fera pas de caprices non plus. On ne pourra pas lui demander, par exemple, je veux que la voici tombe amoureux de moi. Mes amis, c'est bien réellement. Cesse de n'importe quoi, ce sont des demandes qui ne se font pas. Par contre, nous pouvons demander la guérison d'un enfant, mais le résultat ne sera pas obtenu du jour au lendemain. Il ne sera pas rapide. Hop, on met un peu d'eau et l'enfant est guéri. Non, nous devons avoir de la patience, beaucoup de patience. Les maladies sont le résultat des déséquilibres que nous avons eus durant des années. Et des fois, durant toute notre vie. Si nous sommes alcooliques, par exemple, nous détériorons notre foi. Et de fur et à mesure que les années passent, notre foi se détériore de plus en plus. Et il est logique qu'à un moment donné, nous aurons une maladie du foie, une cirrhose du foie, par exemple. Un élémental peut évidemment nous aider, mais il ne peut pas guérir ce que nous avons abîmé durant des années. Et des années, juste comme ça. Hop! Il nous aidera, bien sûr, mais il faudra avoir beaucoup de patience et travailler beaucoup avec ces élémentaux. Cela peut durer des années pour réparer le mal que nous sommes faits à nous-mêmes. Il faut bien comprendre tout cela, mais la nature est vraiment merveilleuse. Il faut observer à quoi ressemble la forme de la plante. Si elle a la forme d'un cerveau, comme la noix, par exemple, Elle sera gouvernée par la vélière qui contient du feu. Il y aura donc dans cette plante l'élémental du feu. La salamandre, c'est elle qui agira sur le cerveau. La nature est aussi simple que cela. Aussi simple que cela. Pour demander de l'aide à la salamandre, nous devons nous placer vers le sud. Car c'est vers le sud qu'est dirigé son temple. C'est tout simple. Il faut simplement savoir qui gouverne un signe zodiacal. Il faut donc pour cela observer la forme des plantes pour savoir quelle partie du corps ou quel organe ils peuvent soigner. Et en plus, chaque signe contient un élément. Les béliers, les lions et les sagittaires possèdent l'élément feu. Donc les plantes qui auront la forme d'un corps, d'un cerveau, des fesses, posséderont des salamandres en eux. Les plantes qui auront la forme de gorge, pour les taureaux, des ventres, et nous avons oublié les signes de la Vierge, qui guérissent les ventres, où se trouvent les silotes de l'Ajahrans, appelées aussi les silotes pancréatiques, qui sont les cellules endocrines qui ne fonctionnent pas lorsque nous avons la maladie du diabète. Bien. Les capricornes qui concernent les genoux sont en relation aussi avec la terre. Et tout ce qui aura la forme de ces signes, taureau, vierge et capricorne, auront des pygmées et des normes dans leur intérieur. Nous avons aussi les sylphes et les sylphides de l'air qui sont dans les plantes de la balance, c'est-à-dire les reins, des gémeaux, puisque ces signes régissent les poumons. Et les bronches, bien sûr. Et le signe du berceau qui régit les moyettes et qui est aussi un signe d'air. Les signes d'eau, qui sont le cancer, régissant la glande thymus, les scorpions, régissant les organes cateurs, et les poissons, régissant les pieds, auront dans leur intérieur les sondines et les néréides. Il nous faut tout simplement observer la nature. Être de très bons observateurs de la nature, être en contact avec elle. Il faut que nous retournions dans les seins de notre mère nature. Nous en avons vraiment besoin. Les élémentaux sont des créatures innocentes et pures et sont gouvernés par les fameux anges du christianisme ou les devas de l'Inde millénaire et sont aussi les mêmes dieux des Mayas, des Aztèques, des Égyptiens. Des Ancas. Ce sont tous les mêmes, c'est-à-dire qu'ils sont des êtres supérieurs qui ont pouvoir sur la nature et qui ont été nommés en accordance avec chaque culture de l'Antiquité. Mais ils sont les êtres supérieurs. N'importe pas si nous les appelons maîtres, anges, dieux ou devas. Ce sont des êtres supérieurs. D'accord? Alors, nous avons beaucoup de noms pour elles. Nous n'avons vraiment pas de quoi nous disputer à ce sujet. Il n'y a vraiment pas de quoi critiquer ou discréditer les autres, parce que tout est identique, tout est pareil. Les maîtres que nous appelons ainsi dans l'Arnos sont les mêmes dieux aztèques, les mêmes anges du christianisme, les mêmes devas de l'Inde. Nous pourrions parler de maître Tlaloc ici dans l'Arnos, le maître Tlaloc. Ou nous pouvons parler du dieu Tlaloc, comme le disent les aztèques, les mexicas du Mexique antique, ou du deva Tlaloc, comme on pourrait le dire en Inde, ou de l'ange. Tlaloc dans le christianisme. C'est exactement pareil. C'est la définition d'un être supérieur dans la nature. Il y a donc des maîtres qui gouvernent les élémentaux et lorsque nous voulons faire une demande à un élémental, il est préférable de nous diriger directement au maître qui gouverne cet élément, car c'est lui qui va ordonner à l'élémental de faire le travail, et ceci toujours en accord avec la loi du karma, la loi divine, pour ne pas commettre d'erreur, car on peut sincèrement penser que l'on fait bien alors que nous faisons du mal. C'est pour cela que nous devons diriger notre élément ou maîtresse. Nous pouvons demander, bien sûr, parce que celui qui ne demande rien n'a rien, et celui qui demande est toujours entendu. Mais la demande doit toujours se faire en accord avec la loi du karma. Demander l'accomplissement, demander la bénédiction de résoudre notre problème en accord avec la loi du karma. Pas jamais par notre caprice. Ou il est préférable d'invoquer le maître et le faire de tout son cœur et de toute notre âme. Pour les élémentaux de la terre, il s'agira du maître Kitishi ou Gob. C'est ainsi qu'on appelle dans la langue millénaire, il régit l'élément terre. Les maîtres qui régissent l'élément E sont Varuna ou Niksa. On peut bien sûr les appeler anges ou êtres de lumière, si vous voulez les définir ainsi. Les maîtres qui régissent l'élément R sont Parvati, Paralda. Les maîtres qui régissent l'élément feu, c'est les fameux dieux Agni de la culture hindoue. Il existe vraiment, ne pense pas que tout cela n'est que fantaisie. Non, ils sont beaucoup plus réels que nous-mêmes. Et le maître Indra régit l'élément de l'éther. Pour les Aztèques, il y a aussi des maîtresses qui régissent chaque élément. La grande maîtresse Coatlicue ou l'ange Coatlicue régit l'élément terre. Tlaloc régit l'élément E. Et Hécatl pour l'élément R. Et les dieux anciens Huehuetéotl régit l'élément feu. Voilà comment se nomment les maîtresses qui régissent les quatre éléments de la nature parmi les Aztèques. Ce qu'il convient de faire, c'est d'appeler les maîtres qui régissent l'élémental pour lui demander de lui ordonner d'accomplir le travail que nous souhaitons, que nous demandons, que nous supplions, mais toujours en accord avec la loi. En plus, il faut savoir que chaque élément possède son mantra qui nous permet de travailler avec lui. Le mantra est un son sacré qui fait que les élémentaux travaillent dans la joie. Le mantra pour l'élémentaire est I-A-O. Il se vocalise ainsi. I Voilà la façon de vocaliser ces mantras sacrés. Le mantra pour l'élément O est la voyelle, mais la voyelle ésotérique M. C'est comme cela que l'on l'appelle. Ou la lettre M, si vous préférez. Et il se vocalise ainsi. Inspirons, nous fermons les lèvres. Pour les élémentaux de l'air, ce sera la lettre H. Cette lettre H est vraiment sacrée, car elle représente la divinité. Bon, il est vrai que toutes ces lettres représentent la divinité. Le Iao est le nom de Dieu chez les Chaldéens. Il est vraiment très sacré. Le M a toujours eu une relation avec notre grand-mère cosmique, et l'H est le souffle vivant. Lorsque les Espagnols arrivèrent sur la terre mexicaine, ils demandaient aux Aztèques, aux Mexicas, comment ils s'appellent Dieu. Et ceux-ci répondirent en faisant c'est comme cela qu'il faut prononcer la lettre H. C'est le souffle divin. Les mantras de l'élément feu, nous les connaissons déjà. Mais nous les savons. Nous ne savons pas quelle est sa signification. Ce mantra est Indri. Celui qui fut inscrit sur la croix du maître Jésus. Les personnes fanatiques qui les crucifièrent ne connaissaient pas ce mantra. Ils voulaient inscrire simplement Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Jésus Nazarenus, res Yuadareum. Et mettant Inri. Mais en réalité, c'est un mantra sacré, extrêmement sacré, qui signifie Ignis, Natura, Renovatur, Anteram. Ce qui veut dire le feu rénove incessantement la nature. Voilà que signifiait Inri. Et il est en relation avec le feu. Il vocalise ainsi. Il faut aligner chaque syllabe. C'est la parole magique, le mantra pour ça. C'est le mantra du feu. Le mantra de l'éther est un mantra très sacré également. Aum est le nom de Dieu en langue sanskrite. C'est le fameux Om qui a été vulgarisé dans le monde entier et dont on se moque souvent. C'est très désagréable parce que Om est le Aum et Aum c'est la divinité. C'est le mantra, la parole magique des élémentaux vivants dans l'éther. Chaque catégorie d'élémentaux régit une partie de notre corps. Par exemple, l'éther régit la partie du corps située de l'entre-sourcil jusqu'au sommet du crâne, qu'on appelle aussi la couronne. Si nous avons des maux de tête, par exemple, ou une maladie du cerveau, nous pouvons travailler avec les puncta et les varvelos, qui sont les élémentaux de l'éther. La partie du corps située du cœur jusqu'à l'entre-sourcil est régie par les sylphes et les sylphides, qui sont les élémentaux de l'air, en incluant le cœur. Si nous avons des problèmes cardiaques, nous pourrions demander de l'aide aux sylphes et sylphides de l'air, et aussi travailler pour changer notre colère, bien sûr. La partie du corps de l'anus au cœur, en incluant le ventre, est régie par les salamandres du feu. Nous pourrions nous demander qu'elle brûle toute cette graisse que nous avons à ce niveau parce que nous sommes trop gourmandes, par exemple. La partie du corps située des genoux à l'anus, en incluant les organes créateurs, est régie par les élémentaux de l'eau, qui sont les ondines et les néraïdes. Et enfin, la partie du corps située des pieds jusqu'aux genoux, est régie par les noms et les pygmées qui sont les élémentaux de la terre. Comme vous le voyez, nous pouvons travailler avec ces élémentaux pour nous aider à guérir ou nous soulager au niveau de notre corps physique. Mais nous le répétons, il n'y a pas de guérison magique, cela ne se fait pas du jour au lendemain. Il n'y a pas de guérison si nous ne nous attaquons pas à la cause première de la maladie. Si nous continuons avec nos bis, nos passions, nos envies, nos orgueils, nos vanités, notre fierté, les élémentaux feront tout ce qu'ils peuvent pour nous aider. Mais si nous continuons à détruire notre corps avec nos vices et nos défauts, nous n'allons pas pouvoir beaucoup avancer. Si par exemple nous voulons guérir notre cœur, nous travaillerons avec les sylphes et les sylphides de l'air. Nous nous placerons vers les points cardinaux correspondants, c'est-à-dire, dans ce cas, vers l'est, vers l'Orient. Ensuite, nous invoquerons les maîtres Parvati ou Paralda, ou bien, si nous préférons, nous invoquerons les maîtres Ehekatl et lui demanderons d'ordonner aux sylphes et aux sylphides qu'ils nous viennent en aide pour guérir notre corps. Ensuite, nous vocaliserons le mantra Esh, qui se prononce comme un soupir. c'est l'âge de tout à l'heure. Et il est recommandé de le faire trois fois de suite. C'est une pratique très simple et il faut relaxer notre corps pour le faire. Nous devons le faire tous les jours, vraiment tous les jours, jusqu'à ce que nous guérissons. Si cela doit se faire 12 ans, eh bien, nous ferons cet exercice durant 12 ans, journalièrement, chaque jour. Les élémentaux, alors, finiront par nous aider si notre supplique est en accord avec la loi du karma. Et étant donné que nous avons notre conscience endormie, nous ne savons pas si notre supplique est d'accord avec le karma, alors, nous devons supplier, 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 supplier avec beaucoup de foi et beaucoup d'humilité. C'est de là qu'est née l'élémentothérapie. 12 thèmes, 12 conférences sur ce sujet seront données dans la prochaine chambre, dans les prochains niveaux, dans la première chambre. Et l'élémentothérapie s'appelle l'art royal de la nature. Nous verrons comment nous pouvons nous aider des élémentaux pour guérir de nos maladies. Il y a des élémentaux qui sont spécialisés dans certaines activités humaines, par exemple la cannelle. L'élémental de la cannelle nous aide à restaurer nos forces, notre vitalité. C'est un élémental cordial. Il nous remplit de joie et d'optimisme. Il est très utile pour les femmes, les enfants et les personnes âgées. Les élémentaux sont merveilleux pour cela. Oui, l'élémental de la cannelle peut vraiment nous aider. Sans parler de la savila ou de l'aloe vera, qui est très connue dans le monde entier. C'est une plante qui a énormément de capacités pour irradier dans notre maison la lumière solaire, la lumière christique, la lumière du soleil. Et d'ailleurs, vous pouvez faire cette prière. Je crois en les fils, les restos cosmiques, la puissance médiation astrale qui enlace notre personnalité physique avec l'immanence suprême du Père solaire. Dans la première chambre, nous vous donnerons toutes les indications pour chaque plante. Il y aura plus de 12 conférences, mais pour l'instant, nous nous contentons simplement d'une introduction. Nous aurons l'explication de beaucoup de plantes, pas pour toutes les plantes de l'univers, toutes les plantes de la nature, mais pour beaucoup de plantes, les plus utiles à notre niveau. La menthe, les élémentaux de la menthe, nous aide à entrer dans les annales akashiques de la nature pour nous souvenir de nos existences passées. Vous pourrez rendre compte ce qu'il peut faire en plus de nous guérir des maladies. Et son mantra est Raom Gaom. Il se vocalise ainsi. Raom. Inspiration. C'est donc ainsi que s'est fait la vocalisation de ce mantra pour les élémentaux de la menthe. Les élémentaux de l'orange, de l'orangère, sont en étroite relation avec les mouvements économiques et monétaires des sociétés et individuelles. Ceux qui ont du mal financièrement et luttent dans la vie à cause de cela peuvent demander de l'aide aux élémentaux de l'orangère. Ils régissent l'économie du monde, mais toujours en accord avec la loi du karma, car rien ne peut se faire en dehors de la loi. Les élémentaux du grenadier sont en relation avec l'amitié, les souvenirs amicaux, les foyers. Les maîtres qui régissent les élémentaux du grenadier sont ceux là même qui gardent les foyers. Pour terminer cette conférence, nous allons faire une petite pratique rapide de façon didactique pour vous montrer comment travailler avec les élémentaux. Nous allons faire la pratique dont nous avons parlé avec les maîtres Ehekati. D'accord? Plaçons-nous face à l'Orient rapidement, les visages tournés vers l'Est, donc. Nous allons relaxer rapidement notre corps physique. Lorsque vous le ferez chez vous, Vous prendrez évidemment plus de temps. Vous vous relaxerez tranquillement. Nous allons le faire maintenant pour vous montrer comment vous y prendre. Relaxons notre corps complètement. Fermons les yeux. Concentrons-nous sur notre être réel. Pour qui l'appelle. Les maîtresses qui agitent les sylphes et les sylphides, celui de les aztèques, appelé Ehecatl. Répétez, mais en étant vraiment consciente de notre demande, de notre pétition, et restons bien dans notre cœur. Mon Père, mon Dieu, mon Seigneur, toi qui es mon être réel, je te supplie de tout mon cœur et de toute mon âme que tu appelles le maître Ehecatl. Répétons son nom trois fois. Ehecatl, Ehecatl, Ehecatl. Nous t'appelons, nous t'invoquons, nous supplions ton aide, ton assistance. Pour que tu ordonnes aux sylphides de l'air ensuite, chers amis, nous nous dirigeons aux élémentaux sylphes et sylphides avec la permission du maître Ehecatl en ordonnant sylphes et sylphides travaillez intensément soignant et guérissant notre cœur. Sylphes et sylphides, travaillez en accord avec la loi divine. Et jamais pour notre seule volonté. Pour guérir notre cœur. Puis, nous faisons maintenant le mantra Esh, comme un soupir, trois fois. Inspirons. Que tout s'accomplisse. Répétons. Que tout se réalise. En accord avec la loi. Et jamais pour notre propre volonté. Qu'il en soit ainsi. Nous pouvons maintenant ouvrir les yeux. Notre conférence sur les éléments de la nature est maintenant terminée. Nous vous conseillons d'étudier, chers amis, la bibliographie suivante avec le livre, en regardant les mystères Vous y découvrirez énormément d'informations sur les élémentaux. Il y a un chapitre sur les elfes. Vous trouverez également beaucoup d'informations sur les tadbas dans le livre Introduction à l'Arnos. Chers amis, merci beaucoup pour nous accompagner. Comme toujours, à bientôt.